Gameblogueuses, gameblogueurs, bienvenue dans la 186e émission de Gameblog, le podcast de la rédaction. Aujourd'hui, un podcast un petit peu particulier, vous le savez, il y a quelques jours maintenant, nous vous avions demandé de participer à ce podcast car nous avons un invité exceptionnel. Il s'agit d'Olivier Leonardi, il est directeur artistique chez Splash Damage et tu as travaillé sur Brick mais plein d'autres jeux. Ça va Olivier ?
Ça va très bien, merci pour l'invitation.
Bah, merci d'être avec nous, on va pouvoir parler avec toi du côté artistique justement, dans le jeu vidéo, la débauche esthétique, au-delà même de la technologie à proprement parler, qui est forcément aussi présente. Et il y a beaucoup de personnes, d'internautes qui nous ont posé la question justement entre le lien entre la technologie et l'artistique. Avec toi on va pouvoir en savoir de manière beaucoup plus concrète. Et donc ce podcast on l'a dédié la direction artistique dans le jeu vidéo au sens large, mais bien évidemment on reparlera, on va en profiter puisque tu es là avec nous pour parler un peu plus précisément de Brink. Alors pour que les gens te connaissent mieux, aujourd'hui tu travailles donc chez Splash Damage, c'est donc à Londres, c'est ça ?
C'est à Londres, enfin c'est dans la banlieue de Londres.
D'accord.
Une ville qui s'appelle Bromley, c'est assez calme, c'est pas banlieue agitée. Ouais. Mais c'est un petit studio, environ 50 personnes. Et Splash Damage est connu pour faire des jeux strictement PC comme Wolfenstein, Enemy Territory et Quake Wars. Brink reprend à peu près la même formule, c'est-à-dire c'est du jeu en ligne, multijoueur, orienté objectif, où le team play est vraiment mis en avant. C'est-à-dire que la totalité des objectifs du jeu doivent être faits en coordination avec son team et chacun choisit une classe et s'entraide pendant la partie, quoi.
D'accord. Mais alors, ta carrière n'a pas commencé dans cette petite banlieue londonienne.
Absolument pas.
Je crois qu'il y avait aussi du Canada chez Ubisoft Montréal.
Exactement. Donc, j'ai passé à peu près 5 ans à Ubisoft Montréal et principalement travaillé sur Myst Revelation, Prince of Persia, qui s'appelait Deux Royaumes en France, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
The Two Thrones et Rainbow Six Vegas.
D'accord. Et alors justement, ta carrière à proprement parler, ça a commencé quelle année ? C'était quoi ton tout premier jeu ?
Tout premier jeu, waouh !
Shippé, on va préciser.
Voilà. Ah, c'est le problème. Ouais.
Le premier vrai bébé.
Qu'à l'époque, tu peux parler des projets qui ne sont pas
exactement,
sortis.
Exactement, mais... c'est-à-dire que mon tout premier jeu, c'était un jeu PC CD-ROM en 1993. À l'époque, il fallait remplir les CD-ROM de scènes cinématiques. Donc, évidemment, on produisait énormément de scènes cinématiques sans vraiment s'occuper de la partie gameplay. D'ailleurs, il n'y avait pas... À proprement parler de game designer, dans une société comme ça, il y avait 3 programmeurs, 3 artistes et on essayait de sortir un jeu. Donc on a bossé 3 ans dessus. Malheureusement, le jeu n'est jamais sorti. Enfin, s'il est sorti en version pirate. Hein, donc on s'est en gros autoproduit notre propre jeu.
Ça s'appelait comment ?
Ça s'appelait Atripolis 2097. D'ailleurs, pour l'anecdote, le jeu avait été commencé avec des personnages en pâte à modeler, animés image par image.
Sympa.
Et les décors étaient faits en maquette, donc on photographiait tout ça.
Gros boulot quand même.
Ah oui.
Énorme boulot, donc c'était des écrans statiques, mais on avait 500 écrans de jeu où le personnage se déplaçait à l'intérieur. L'ambiance était assez Blade Runner avec une histoire d'extraterrestre. Enfin, c'était pas mal. C'était intense niveau production, parce que 3 artistes, 3 programmeurs, et en plein milieu de la production, il a fallu qu'on passe tout en 3D, donc il a fallu qu'on apprenne des logiciels comme 3D Studio.
Ouais.
Sur le tas directement.
C'était chaotique alors.
C'était
extrêmement frustrant de pas avoir
le truc. Extrêmement chaotique. C'est après avoir produit 500 niveaux de manière assez traditionnelle, il fallait reproduire exactement les 500 mêmes niveaux
en 3D,
en 3D avec des personnages en 3D. Donc c'était assez épique. Je pense j'ai vieilli 10 ans à ce moment-là.
Pour un premier boulot. Ça fait des bons XP aussi.
L'expérience a dû
être
énorme.
Ça fait de la
énorme.
Super expérience. J'ai pu aborder tout l'aspect artistique, la modélisation, même l'animation. Il y avait une heure de cinématique dans le jeu avec des personnages qui parlaient. Donc on est quand même en 93. Hein. C'est le début de ce genre de cinématique un petit peu poussé. Ouais, on apprend énormément.
C'était
pas du CDI, d'ailleurs. Exactement, c'était l'exacte période du CDI. Ouais.
Et donc le premier jeu shippé alors, du coup ?
Bah, premier jeu shippé, après donc, cette expérience
commercialisée,
PC,
hein, pour ceux qui ne parlent pas de l'anglais.
Avec des amis à Paris, on avait créé une petite compagnie qui s'appelle Catharsis, qui faisait juste la prestation de service pour les boîtes de jeux. Donc on faisait des scènes d'intro, scènes cinématiques in-game. Et donc, on a fait pas mal de scènes cinématiques pour beaucoup de boîtes de jeux françaises, incluant Delphine Software ou des gens comme Joe Wood qui faisait des petits jeux de gestion sur PC. Donc, effectivement, je pense que je peux comptabiliser ça dans mes premiers jeux shippés, puisqu'on faisait toutes les cinématiques des jeux, quoi. Et après, donc, j'ai quitté Catharsis pour aller travailler à Montréal chez Ubisoft.
D'accord. Eh ben, tu sais, Olivier, on va commencer ce podcast, on va rentrer vraiment dans le cœur des questions, avec les questions de nos internautes, justement, qui ont été très nombreux. On en a sélectionné quelques-unes, les plus pertinentes, en tout cas celles qui représentent aussi un avis le plus général possible. Et puisque tu en parlais il y a quelques instants, ou au début avec ta société Catharsis, vous étiez finalement prestataire de service sur des éléments d'un jeu, bah, il y a une question qui touche directement ce segment-là. Elle nous vient de Ni4VU4G, alors qu'il y a peut-être jamais. Un A, donc Niavuog. Voilà. Pourriez-vous nous expliquer en détail les différents intervenants sur le développement d'un jeu, ainsi que leurs tâches respectives? Qu'est-ce que vous conseillez à des étudiants pour pouvoir travailler dans les jeux vidéo, faire des mini-jeux-projets, développer une culture de jeu? Et surtout, la deuxième partie, c'est on sait que de plus en plus de morceaux de jeux sont donnés à des sous-traitants, surtout pour le développement des gros jeux. Je me demande donc si le travail dans les boîtes créant le jeu ne devient donc pas plus un travail de regroupement des informations, plutôt que d'un travail où l'on voit petit à petit l'évolution de ce qu'on en a créé.
C'est ce qu'on appelle l'outsourcing, en fait.
Exactement. L'outsourcing, c'est utilisé énormément par les gros studios, parce qu'effectivement, les jeux, le volume de données à produire est tellement énorme qu'il y a à un moment donné, pour garder une équipe petite et en gros sous contrôle du management. Moi, j'ai eu l'expérience de travailler chez Ubisoft, donc c'est de très grosses équipes. Ubisoft utilisait peu d'outsourcing. Tout est fait en interne. Donc les équipes grossissent énormément et à un moment donné, on a tellement de niveaux d'hierarchie que faire passer l'information d'un directeur artistique à l'artiste qui va donc faire le travail, il y a quelques éléments qui se perdent en route et c'est très très dur de garder le contrôle en fait sur le visuel.
Chez Ubi, on parle d'équipes de plus de 400 personnes. On se rend compte qu'effectivement, c'est quasiment impossible.
Il y a eu ce mythe de Assassin's Creed 2, 450 personnes. Ouais. Je ne sais pas si c'est vérifié, mais... mon expérience personnelle sur Rainbow Six Vegas, c'était déjà 200 personnes exclusivement sur la version Xbox.
C'est déjà colossal.
C'est déjà colossal. Donc,
c'était la version lead à ce moment-là.
Ouais, c'est la version lead et la version PS3 était faite légèrement en différé. Donc pour une équipe artistique, c'était 25 animateurs, 40 artistes qui créent des niveaux, 5 artistes pour les personnages. C'était vraiment énorme. Et ça devient très très dur à gérer parce qu'il faut chaque jour avoir un compte-rendu de ce qui a été fait dans la journée par les artistes, quels sont les livrables qui sont les plus critiques. Tout le monde travaille en vue des démos E3, donc ça rajoute des tâches supplémentaires, ça ajoute de la pression supplémentaire. Donc le outsourcing, ça a permis en fait de déléguer certaines tâches qui étaient un petit peu secondaires, comme à partir du moment où on a, prenons un modèle de voiture, à partir du moment où le standard a été créé, créer 20 autres modèles de voiture, ça va être un petit peu du travail à la chaîne, quoi. Ouais. Donc ça c'est géré par les sociétés d'outsourcing. Le son souvent c'est fait parce qu'on n'a pas nécessairement une connaissance du son. Le son dans un jeu vidéo c'est exactement la même chose que pour un film ou pour une série télévision, quoi. Donc ça c'est géré habituellement par des sociétés externes. La motion capture pour les personnages, exactement la même chose. Pour prendre le cas de Brink, on a fait une chose qui commençait à faire peur à tout le monde. Toutes les armes du jeu ont été faites par une société d'outsourcing.
Parce qu'elle avait une expertise particulière dans la représentation de l'armement ?
Non, parce que les impératifs de production faisaient qu'en interne, on ne pouvait pas les prendre en compte. Mais pour un first-person shooter, une arme, c'est essentiel. C'est ce qu'il y a devant le joueur
en
permanence.
C'est le personnage,
quasiment.
Exactement,
c'est le
personnage
du jeu. Donc, tout le monde pensait que c'était assez risqué. Mais on a une approche, je ne sais pas jamais, on travaille à ce qu'on appelle des blockouts, qui sont des modèles... en géométrie très très légère, dans très très peu de triangles. On les teste dans le jeu, on teste les parties mobiles, et à partir du moment où l'arme est testée en termes de gameplay et en termes de fonctionnalité, elle est envoyée donc à l'outsourceur avec toutes les informations, les concept art, les fiches techniques, les performances de l'arme, et à partir de ce moment-là, ils produisent donc le modèle, les textures, et évidemment il y a un suivi de la qualité durant tout le processus de fabrication, mais c'est vrai que ça avait l'air très risqué, mais on est tombé sur une très bonne société d'outsourcing, mais le travail était absolument fantastique du début à la fin.
Donc en gros, ce que tu nous dis, Olivier, c'est qu'aujourd'hui, pour des productions ambitieuses, il est quasiment impossible de ne pas outsourcer certaines choses si on veut garder finalement même un contrôle aussi de la qualité. C'est pas forcément une crainte de perte de qualité, au contraire, peut-être que ça va être plus précis.
Ouais, c'est plus précis parce que attaché donc à chaque société d'outsourcing, on a quelqu'un qui va faire le management des données qui viennent donc des sociétés d'outsourcing. Donc on fait un test de qualité, c'est après envoyé aux artistes qui vont faire un test de qualité plus en profondeur, qui vont dire ok, est-ce que ça correspond bien au style graphique du jeu, est-ce que vous utilisez les bonnes contraintes techniques, est-ce que les budgets texture ou polygone sont respectés. Donc il y a un suivi qui est fait en permanence. Si un directeur artistique est seul avec une équipe de 100 personnes, ça va être un petit peu plus difficile de faire le suivi au jour le jour de tout ce qui est produit.
Mais tu pourrais intégrer une telle structure en interne aussi avec un middle management, puisque toi, tu, en tant que directeur artistique, dès qu'il y a plusieurs aspects ou chantiers qui sont outsourcés, tu es au cœur de chacun de ces outsourcing.
Exactement.
Et tu vérifies tout ça.
Ce qui veut dire que moi, sur mon bureau, j'ai une pile énorme de dossiers qu'il faut que chaque jour je vérifie. Et pour chaque élément qui va être intégré dans le jeu, il faut que je donne une série de commentaires, de feedback. Mmh. Et ça prend énormément de temps.
Et pourquoi ça marche mieux quand tu le fais
à minuit, je suis toujours en train d'écrire mes rapports
au
quotidien, sur chaque élément qui est donc...
Sur un temps de développement qui s'étale de...
Pour Brink, ça a été 2 ans et demi, en gros.
Donc, 700 jours à minuit à faire des rapports.
C'est ça.
Très bien. Pourquoi après, tu nous expliqueras mieux ce qu'est le directeur artistique.
Mais pourquoi est-ce que tu peux pas faire ça en interne, je veux dire? Parce que tu passes aussi beaucoup de temps à écrire ces rapports, à les lire, à les...
Tu peux faire ça en interne, tu peux commencer à déléguer, mais...
Parce qu'il y a des gens dans la société où tu outsources qui, évidemment, ont aussi un poste de management dans cette
Exactement.
Société et doivent faire respecter le contrat du client qui
outsource. Exactement.
Outsource,
c'est-à-dire qu'un outsourceur, pour être payé, il faut qu'il respecte donc le cahier des charges et qu'il livre de la qualité. Donc ça, c'est évident, mais... Rajouter des personnes qui font juste du management en interne, ça alourdit les coûts de production, ça alourdit toute la gestion de la compagnie, les charges. Mmh. Un studio indépendant, il faut que ça reste le plus léger possible. Mmh. Parce qu'à partir du moment où un jeu est fini, il faut réduire le nombre d'effectifs ou enchaîner directement sur la prochaine production pour pouvoir conserver tout le monde. Mmh. Pour ça que donc il y a...
Il y a la gestion de la boîte aussi. Hein,
exactement. Pas prendre société d'outsourcing, les gens qui sont ce qu'on appelle des contracteurs, qui travaillent pour une période définie en interne. Donc, on a eu sur Brink pour les 4 derniers mois des contracteurs qui faisaient juste la finition de toutes les maps. Mm-hmm. Donc, ils avaient la mission de finir les maps qui avaient été testées par les level designers. Donc, les artistes avaient déjà amené le niveau détail à un niveau assez élevé, mais c'était toute la phase de polissage et de finition mm-hmm. des maps. Donc ça, il faut énormément de bras pour pouvoir arriver à un niveau de finition qui est acceptable.
Et ça dure combien de temps, cette phase de polish?
Pour Brink, elle a duré 4 mois, juste pour les maps. On a eu de la chance que le département modélisation de personnages et des armes donc utilisait donc cette société d'outsourcing pour les armes, et on fait tous les personnages en interne. Mais on avait 3 artistes qui étaient excessivement bons et rapides, qui ont réussi à en gros produire 20 personnages totalement uniques. Donc c'est ceux que vous retrouvez dans le système de customisation de Brink en un temps assez court. Et cette équipe a toujours été dans les délais et ont complètement contrôlé la qualité de leur travail, parce qu'on les avait un peu allégés avec l'outsourcing des armes, par exemple. Les armes, y compris les gadgets, quand dans Brink vous réparez une grue avec une torche, tout ce qui est gadget qui apparaît à l'écran ont été fait aussi par Stader Sourcing.
D'accord. Et pour revenir à la première partie de la question de Niavog, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à des étudiants, des gens qui aimeraient travailler dans cette branche, qui est le jeu vidéo?
Alors, première chose que je conseillerais, c'est d'être un joueur invétéré, de connaître la culture du jeu vidéo, parce que il y a énormément de fois où on pense avoir une super idée. Évidemment, ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre et peut-être même mieux fait par quelqu'un d'autre. Donc la culture générale, jeu vidéo, c'est super important. Mais moi, je viens d'un âge, excusez-moi, je suis super vieux, où il n'y avait absolument aucune formation orientée jeux vidéo. Donc,
t'as commencé sur Deluxe Paint, des trucs.
J'ai fait 5 ans de Beaux-Arts et j'ai commencé effectivement sur Deluxe Paint et TV Paint.
Qui sont donc des logiciels, pour que les gens comprennent, qui datent de l'époque des premiers micros à l'avant qu'Atari et Amiga, tout ça disparaisse.
Amiga avec des disquettes, j'avais 2 mégas de mémoire vive. C'était génial,
c'était énorme.
C'était super puissant.
C'était énorme.
Énorme. Et donc, on crée des scènes en 3D avec les logiciels de l'époque. Et 3D Studio, c'était déjà à l'époque sur PC, ça tournait vraiment bien. Et ça permettait de créer des vrais environnements 3D et personnages.
Donc,
grosse culture jeu vidéo. Passion. Parce que ce que je veux dire, voilà, passion. Mais maintenant qu'on a des formations qui sont un petit peu plus poussées, j'ai travaillé pendant un petit moment dans la formation et ce que j'essayais de faire, c'est toujours avoir à la fin de la formation un projet concret qui montre exactement tous les processus qui sont impliqués dans la production d'un jeu vidéo. Même si c'est un projet très très court et avec un gameplay super simple sur une plateforme, ça peut être n'importe quelle plateforme portable, c'est pour avoir l'expérience de toutes les phases de développement du jeu.
Avoir la vue d'ensemble.
Ouais. Exactement, conceptualisation, le prototypage, après l'essai du jeu sur la plateforme réelle, s'il y a une composante multijoueur, donc évidemment il faut tester le multijoueur, et jusqu'au produit final qui représente la qualité qui a été voulue au départ. Quoi. Donc c'est toujours bien de pouvoir faire un projet en entier du début à la fin pour exactement savoir okay, comment ça va se passer maintenant quand je vais être dans une vraie structure de jeux vidéo.
Et tester son endurance aussi, parce que c'est des métiers, tu l'évoquais tout à l'heure, qui demandent, qui sont très consommatrices en temps, en
exactement.
Énergie. Donc il faut du talent, il faut de la passion, il faut de l'envie aussi.
Il faut de l'envie et c'est clair que le jeu vidéo, ça n'a jamais été un travail de fonctionnaire.
Non.
Ça n'existe pas, même si on dit ok, on va essayer de respecter l'équilibre vie privée, vie au travail, c'est un travail de passionné quoi. Donc, et de toute façon ça devient un travail de passionné parce qu'à un moment donné on dit ok, mon travail va être montré à des millions de joueurs, j'ai envie que mon travail soit le meilleur possible.
Bien sûr.
Donc tu mets l'énergie et le temps pour ça quoi.
Et c'est aussi un travail passionnant et c'est le revers de la médaille, c'est un gros investissement personnel. Mais c'est ça qui en fait justement le côté passionnant. Une nouvelle question, celle de Tintounet. Eh oui.
Tintounet.
Tintounet. Les compromis artistiques à l'égard des limitations techniques sont-ils fréquents ? Comment se passe le dialogue entre les programmateurs d'un côté, dans ce genre de situation, et la partie artistique de l'autre ?
On dit programmeur.
Oui.
Programmateur, ça a un petit écran, oui. Puis on commande des trucs.
Et puis d'ailleurs, Tintounet l'avait très bien écrit. C'est moi qui. Voilà. Donc, les programmeurs.
Les contraintes techniques, c'est sûr que c'est un souci tous les jours pour les artistes, parce qu'effectivement, il faut travailler dans ces contraintes techniques. Chaque console a des contraintes techniques différentes. L'une, ça peut être la quantité de texture à l'écran, la quantité de polygones, la gestion de comment est-ce qu'on gère l'éclairage dans une scène.
On reviendra dessus justement tout à l'heure, on aura une question parce que beaucoup de personnes l'ont posé justement sur les différences entre les versions PC et console de Brink, parce que forcément c'est pas les mêmes machines et forcément du coup il y a des différences.
Donc ouais, ces contraintes techniques, elles apparaissent depuis le début d'une production quoi. Donc les artistes essaient de travailler dans ces contraintes, mais la plupart du temps, elles ne sont pas absolument définies. C'est-à-dire que la définition de ces contraintes, elle apparaît quand le jeu est testé en grandeur nature, dans les conditions exactes du jeu. Par exemple, Brink, c'est un jeu 8 contre 8, donc il faut que 8 joueurs humains affrontent 8 joueurs humains sur une map qui va être à un niveau de finition à peu près acceptable. Donc tant qu'on n'a pas ces données-là, on ne peut pas donner de restrictions précises aux artistes, par exemple.
Mais est-ce que ça veut dire que du coup, les artistes vont revenir tout au long de la production jusqu'à la fin sur certains éléments très précis ?
Exactement.
Alléger des textures.
Alléger des textures, c'est toute la phase d'optimisation. On va donc réduire la résolution des textures, réduire le nombre de polygones sur des personnages, sur des armes. On va avoir ce qu'on appelle des LOD, qui sont Level of Detail, qui font qu'un objet qui est vu à 100 mètres va peut-être comporter peut-être 100 polygones et celui qui a 1 mètre va en avoir 5000. Donc il y a une façon de gérer le niveau de détail sur les textures, sur les objets. Il y a quelque chose qui avait déjà été fait sur Quake Wars par Splash Damage, un truc qui s'appelle Area of Relevance, c'est-à-dire que toutes les données qui sont transmises pendant le jeu en réseau priorisent. Qu'est-ce qui doit être affiché ? Quel son est le plus important ? Quel visuel est le plus important ? Est-ce qu'on va afficher la totalité des effets spéciaux ou une version optimisée ? Parce que l'action se passe tellement loin que le joueur ne va pas capter la totalité de ce qui se passe dans le jeu. Donc, il y a différentes façons d'optimiser un jeu et effectivement, c'est complètement différent qu'on soit sur un PC, PlayStation ou une Xbox.
Parce que ce qui est certain, c'est que Brink a une véritable identité visuelle forte, hein, on en parlera tout à l'heure, mais justement c'est ce qui en fait un FPS qui est sorti du lot, c'est que contrairement à tous ces FPS très guerriers, etc., là il a un style. Mais au tout début, j'imagine, quand toi et tes collègues artistes, vous dessinez, vous commencez à imaginer les personnages, les univers, j'imagine que là vous avez totale liberté de mettre tous les détails visuels que vous voulez dans les tenues, dans les visages, et comment ça se passe après cette espèce de... J'imagine, il y a un filtre, il y a une frustration aussi peut-être, parce qu'on se dit, mais je veux
qu'il y ait
ça.
C'est pas vraiment une frustration, mais c'est peut-être une dégradation du style. Mais quand un concept artiste travaille sur un mood painting ou je parle les détails d'un vêtement, mm-hmm. il va mettre le maximum de détails pour dire ok, ça c'est l'intention mm-hmm. de départ. Après, l'artiste, il va interpréter ses intentions de départ et les formater pour qu'elles rentrent dans ses contraintes techniques.
Ouais.
Donc c'est sûr que le travail d'exploration et de conception des parts est super intéressant parce que c'est sans limite, il n'y a aucune limitation. Donc on sait, ok, on a un monde qu'il va falloir qu'on décrive et on se donne les moyens maximum pour le décrire. Quoi.
Mais alors, justement, comment ça marche ce processus vraiment initial de la pré-production? Alors évidemment, ça varie, j'imagine, suivant les projets, mais dans le cas de Brink ou des autres projets sur lesquels tu as travaillé, est-ce que la direction artistique est vraiment au départ dans la core team d'un projet et où on se dit ok, on veut faire un shooter mais il faut que la direction artistique fasse ci, ou est-ce que ça vient après? Quel est à quel moment en fait la direction artistique commence à vraiment travailler et influencer un projet?
Ça dépend au moment des projets. Pour moi, mon expérience a été pendant longtemps de travailler sur des licences déjà existantes, donc il y a comme une espèce d'héritage à garder des épisodes précédents. Des fois ça passe par la réinvention du style visuel, ou par exemple, dans le cas de Prince of Persia, c'était ok, le deuxième a été un peu trop noir, trop gothique. Essayons de revenir à ce qui faisait la beauté du premier, c'est-à-dire le côté mille et une nuits. Donc, on est reparti sur des bases avec des couleurs chaudes, une ambiance très orient. On a pris toutes nos références en faisant des voyages au Maroc où on avait cette espèce de qualité de lumière qu'on essaie de reproduire dans le jeu. Donc, il y a une évolution du style artistique. Pour Brink, c'est une page blanche.
Ouais.
Une idée de l'endroit où ça va se passer et un début d'histoire. Ce qui peut être absolument fantastique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça fantastique.
Et du coup, c'est le truc le plus grisant de ta carrière.
C'est exactement le truc le plus grisant de ma carrière. C'est du genre, ok, commence un jeu, ta carte blanche, tu peux faire exactement ce que tu veux.
Ça donne pas le vertige aussi, un petit peu?
Ça donne un peu le vertige, mais j'étais arrivé chez Splash Damage en me disant, ok, j'ai déjà une idée du style que je veux faire. Et quand j'ai vu quel genre d'endroit il voulait présenter aux joueurs, j'ai dit c'est exactement le
point. C'est le moment de concrétiser cette idée.
Il faut que je saisisse cette opportunité de le faire. Quoi. Il y a aussi des contraintes un peu, on va dire, économiques. Mm-hmm. Bon, on savait que c'était un first-person shooter, multijoueur. Donc il y a une spécificité avec le côté un peu plus orienté objectif, le teamplay qu'on retrouvait déjà dans les précédents jeux Splash Damage, mais avec un marché inondé de first person shooters sont militaires, on retrouve à peu près les mêmes endroits, on retrouve à peu près les mêmes palettes. Commercialement, pour un petit studio, il va falloir essayer de se différencier dès le début. Fait que le style visuel de Brink, dès qu'on a diffusé les premiers screenshots, avant que personne ait vu quoi que ce soit du gameplay, ça a déjà commencé à créer une discussion sur ok, c'est stylisé, c'est quel est le style, ça nous rappelle tel jeu, ça a créé tellement de hype autour du jeu que ça, nous on en a bénéficié dès le début, donc on a commencé à être sur la scène des futurs shooters qui essaient un petit peu de se démarquer, de redéfinir le genre,
d'oser quoi.
Mais alors c'est une stratégie du studio et des développeurs de vouloir se différencier, ou pour le coup, parce que d'habitude en fait on a traditionnellement l'impression que les éditeurs ont très peur de tout ce qui sort trop de l'ordinaire, y compris visuellement, c'est-à-dire qu'il faut suivre un peu la tendance, pas trop s'en éloigner, pas trop prendre de risques, et c'est peut-être aussi pour ça du coup que Brink est ressorti vraiment du lot, parce qu'il avait cette identité considérablement différente, parce que c'est quand même du post-apocalyptique, et si tu regardes le mot post-apocalyptique sur d'autres jeux à côté, c'est pas du tout le même monde.
Non,
c'est donc c'était une volonté du studio à la base.
C'était plutôt une volonté personnelle, et j'ai eu la chance d'avoir des artistes qui ont compris immédiatement les enjeux et l'intérêt d'aller vers quelque chose de plus stylisé. Les enjeux commerciaux on les comprend, mais artistiquement il y a aussi un sentiment de satisfaction d'avoir pu produire un style qui est unique à Brink. Et les premiers retours presse qu'on a eu, c'est ok, tout le monde essaie de définir le style de Brink, mais personne n'y arrive parce que Brink c'est un style unique. Donc ça c'est déjà une énorme victoire pour une équipe d'artistes. C'est arriver à créer quelque chose d'unique dans un marché qui est déjà inondé de centaines de jeux, quoi, qui prennent des jeux complètement différents, comme soit Gears of War ou Katamari Damacy, c'est quand même des choses complètement différentes. Et les deux styles sont pertinents et ils collent peut-être au type de jeu que sont ces deux jeux-là, mais c'est déjà deux styles complètement affirmés. Tout le monde dit Gears of War, c'est un jeu réaliste, mais non, c'est un jeu qui est vraiment stylisé.
Bien sûr, ouais. Mais justement, c'est un petit peu le sens de la question de Mid-C qui dit « J'aime beaucoup le style visuel des personnages de Brink, ça change des persos qui essaient d'être réalistes malgré le fait que nos consoles actuelles ne font pas encore de photoréalisme. Les jeux qui s'y essaient sont ceux qui vieillissent visuellement le plus vite. Ce style est-il une volonté de se démarquer, alors on a déjà un peu parlé, ou de pouvoir perdurer dans le temps sans que le jeu prenne un coup de vieux trop rapidement ?» Ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, avoir sa patte,
c'est, oui, fait c'est une réalité. Temps, et je pense que le jeu vidéo est en train de vivre exactement la même chose que le cinéma en image de synthèse a vécu avec un décalage de 10 ans, on va dire. Ouais. Où le début de l'image de synthèse, c'est il faut absolument reproduire la réalité. Il n'y a aucune raison de reproduire la réalité, absolument. C'est je pense que le style prévaut sur tout le reste. Donc, c'est vrai que on a toujours cette espèce de syndrome qui s'appelle le Uncanny Valley, qui fait qu'on a cette courbe qui correspond à, en anglais, c'est le Suspension of Disbelief, qui on reste complètement immergé dans l'univers, rien ne nous sort de l'univers. Et à partir du moment où les personnages atteignent un point qui sont très proches de la réalité, le Suspension of Disbelief plonge complètement parce qu'on a toujours cette espèce d'impression de regarder des morts vivants.
Exactement.
Il y a toujours un petit détail qui fait que hop,
exactement,
tu sors du trip.
La complexité d'un visage humain n'a pas été encore restituée complètement dans un jeu.
Et du coup, c'est terrible parce que ça devient pire que finalement
exactement,
quelque chose de stylisé.
Un réflexe de recul, on essaie de me faire croire que c'est la réalité, mais je vois très bien que ce n'est pas la réalité. Ouais. C'est exactement ce qui s'était passé avec Final Fantasy, le film.
Le film, oui.
C'était de très très beaux modèles, un très beau rendu, mais à partir du moment où les animateurs c'était
des robots quoi. Et
c'était des.
Mais c'est un terme qui vient de la robotique justement en fait, la fameuse Uncanny Valley. C'est un japonais dans les années 70 qui a conceptualisé.
Masahiro Mori.
Voilà, et qui disait que plus on essaye de faire un robot proche de l'humain, plus les moindres imperfections paraissent monstrueuses.
Exactement, c'est la première chose que tu vas dire, c'est un robot.
Ouais.
C'est pas un humain quoi.
Et ce qui est important aussi dans ce concept là, c'est le concept de vallée, c'est-à-dire que c'est pas permanent. C'est-à-dire qu'il y a c'est comme un creux de vague. On va vers le réalisme, on atteint un moment où ça devient très réaliste, mais aussi très dérangeant parce que ça n'est pas parfait. Et quand on arrive à transcender ça, là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Et donc, il y a ce phénomène-là aussi, évidemment, dans l'animation et dans le jeu vidéo.
Ouais, donc, pour Brink, on a essayé donc, d'éviter cette fameuse Uncanny Valley en proposant un style qui n'est clairement pas la réalité, mais qui reste visuellement intéressant. Et la première chose qu'on a vu en termes de réaction, c'est que les gens étaient excités au fait de pouvoir customiser leurs personnages et se retrouver des personnages avec des tronches hallucinantes et d'arriver sur un champ de bataille en multijoueur et d'être complètement unique.
Ouais. Bah justement, en parlant de ça, il y a Anfalmir qui pose une question et qui se demande « Quels sont, selon vous, les clichés du FPS que vous avez réussi à éviter dans Brink ?» Et de quelle manière ? Alors il évoque les barils rouges, les râteliers d'armes à tous les checkpoints, ce genre de choses, donc très identitaire du FPS qu'on retrouve tout le temps, effectivement.
Ouais. Moi j'avais un combat personnel à l'époque de Prince of Persia, c'était les caisses un peu poussées. Donc j'avais fait faire des t-shirts pour mon équipe qui avait un symbole, ça faisait no crates, donc il y avait une caisse barrée. Donc dans Prince of Persia, il n'y avait pas une seule caisse dans tout le jeu. Donc je me suis battu contre les caisses pendant cette production. Pour le FPS, les clichés actuels, c'est ça revient un petit peu au contexte. C'est militaire, Moyen-Orient, la Corée. On a bouffé de la Corée pendant super longtemps. L'affrontement entre le bloc russe et l'Occident. C'est clair que Brink, le setting est tellement différent que c'est on a aucun risque d'arriver dans ce en fait de tomber dans ce piège. Maintenant, visuellement, effectivement, il n'y a pas de baril rouge qui explose. Tout est basé sur comment est-ce qu'on a réussi à intégrer les éléments qui sont utilisés pour le smart, complètement intégrés dans les décors.
Qu'est-ce que c'est le smart ?
Le smart, c'est un acronyme qui dit Smooth Movement Across Random Terrain.
Très bien, donc un mouvement fluide à travers un terrain
aléatoire, exactement. Donc l'indication qu'on donne au joueur pour aller en gros accomplir des objectifs, c'est un marqueur qui se trouve dans l'environnement 3D qui désigne une porte à l'effet explosé ou une grue à réparer. Et donc le joueur va utiliser donc le smart qui lui permet, qui facilite le mouvement dans ses maps pour aller atteindre ses objectifs principaux. Chaque fois qu'un joueur choisit un différent objectif, un nouveau marqueur va apparaître dans le monde en fait. Pendant un moment, on pensait à essayer de diriger le joueur plus vers les routes principales et le laisser expérimenter les routes secondaires. Mais ça va complètement à l'encontre de l'idée de free running qui est, ok, choisis et trouve toi-même ta route. Ouais. Donc on a retiré cet élément-là, on a rajouté juste un marqueur sur l'objectif. Donc le joueur, à un moment donné, il va devoir essayer de réfléchir quelle est la façon la plus furtive ou la plus rapide d'atteindre cet objectif. Donc la plupart du temps, effectivement, on va se retrouver pour les routes rapides à avoir énormément de résistance de la part de l'ennemi. Donc c'est le moment de se creuser un peu plus, savoir, ok, alors je vais prendre la route secondaire. Je sais que j'utilise un petit peu d'acrobatie pour monter sur des containers ou des... on a des espèces de blocs de béton qui barrent un peu le passage, mais qui sont facilement franchissables avec le smart. Il y a d'autres routes qui sont destinées à des classes de personnages spécifiques. Ça peut être réparer un escalier pour ouvrir donc une route secondaire ou aller pirater un keypad pour ouvrir une porte qui précédemment barrait le passage. Donc je pense qu'on a quand même réussi à éviter tous les clichés essentiels du FPS.
Alors tu vas voir avec cette nouvelle question, celle de Dan, que nos lecteurs aiment justement les jeux qui sortent un petit peu du lot visuellement. On pense à Okami par exemple, qui a un très gros succès chez nous. Alors pour Dan, pour moi, le succès d'un jeu doit beaucoup à sa direction artistique. Ico, sans sa patte graphique, n'aurait sûrement pas été le bijou que l'on connaît par exemple. Les décideurs, ceux qui s'occupent du business et du marketing, en ont-ils conscience ou est-ce que les autres domaines de création passent avant la direction artistique? Avez-vous dû batailler pour imposer votre vision?
J'ai un peu bataillé pour imposer ma vision, mais j'ai quand même la sensation et j'ai de l'expérience que le gameplay est de toute façon l'élément essentiel dans un jeu. La direction artistique, finalement, c'est habiller
le
système de jeu. C'est exactement l'enrobage. Alors effectivement, avoir une direction artistique qui se démarque des autres, ça aide pour attirer l'attention vers soi. Mais si le jeu derrière est sans substance et si on reprend les mêmes mécaniques de jeu déjà existants, d'abord, on ne va pas se créer une communauté de joueurs autour du jeu parce qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt à continuer à y jouer. Donc, effectivement, la direction artistique, c'est important, mais la conceptualisation des mécaniques de jeu, c'est beaucoup plus essentiel. Et je pense que les gens du marketing sont très attentifs au côté visuel parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir communiquer sur le jeu rapidement. Ils ne sont pas nécessairement intéressés par les mécaniques de jeu, mais pour un joueur, c'est l'essentiel. C'est un jeu, c'est pas juste un film ou un slideshow.
Mais alors, est-ce que tu sous-entendrais quand même que donc finalement, le côté les vendeurs du jeu vidéo, les marketeurs, etc., les décideurs, finalement vont être plus conscients et vigilants sur la partie artistique, du coup? Et du coup, peut-être un peu plus dirigiste, parce que peut-être qu'ils ont leurs idées aussi, qui ne sont peut-être pas celles des artistes.
Oui, c'est vrai. Et puis, la plupart du temps, marketing va aller pour la chose la plus safe, on va dire. Donc, effectivement, si tu vas pour la plus safe, tu fais du shooter militaire dans un décor de Moyen-Orient.
Mais est-ce que c'est si safe que ça? Parce que du coup, à force de saturer, au bout d'un moment...
C'est une sorte d'équilibre, quand même.
Quel est le dialogue qui s'opère justement entre les studios, donc les créateurs, et les marketeurs, on va dire, sans terme péjoratif?
Oui, mais si tu regardes bien l'état du marché, on a quand même 3 ou 4 licences qui reprennent exactement le même principe.
Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield.
Et les Battlefield, donc ils sont 3 shooters militaires. Qui représente exactement les mêmes genres de battlefield. Je perds mon français.
De champ de bataille.
Champ de bataille. Ouais. parce que il y a quand même un moment où tu dis ok, ça vend, donc on va faire la même chose. C'est comme il y a un truc qui est assez évident dans le jeu vidéo, c'est tous les jeux qui utilisent la technologie Unreal, à part certains.
Une question aussi.
Utilise exactement le même rendu qu'un Gears of War parce que tout le monde a
la même gueule.
Exactement. Bah. Mais en même temps, tu as des gens qui sont excessivement bons et qui font du Mirror's Edge avec Unreal qui ne ressemble à rien d'autre.
Et bien justement, ça tombe bien que tu en parles puisque Juninho62 te pose cette question. Que pensez-vous de tous les middleware du type Unreal Engine 3 ou CryEngine 3? D'un côté, ils facilitent la vie des développeurs qui ne partent pas de zéro et qui peuvent se concentrer sur l'artistique, et là je pense à BioShock. Mais d'un autre côté, et celui du point de vue du joueur, je trouve que les jeux tournant, par exemple, sur l'Unreal Engine 3, ont souvent la même allure et qu'il leur manque un supplément d'âme.
C'est tout à fait vrai. Unreal, c'est un moteur qui est très facile à appréhender et on a de très bons résultats visuels rapidement. C'est Unreal, c'est un moteur qui a sorti à peu près une centaine de jeux, qui sont tous très connus, mais qui qui sont pas nécessairement uniques d'un point visuel. Mais comme je disais, il y a des gens qui ont réussi à utiliser cette même plateforme pour faire quelque chose de complètement différent et d'avoir une patte graphique qui est unique.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut fournir plus d'efforts?
Il faut fournir plus d'efforts.
C'est donc justement uniquement un problème technique en fait.
Il faut pas, en fait, faut pas hésiter à essayer d'autres choses. Mais maintenant, c'est ça, c'est là où l'artiste intervient et arrive à maintenir une qualité visuelle donc qui tourne effectivement avec Unreal, parce qu'Unreal a ses limitations aussi. On peut pas faire n'importe quel type de jeu avec Unreal. Mais effectivement, je pense que ça revient à la question précédente sur okay, est-ce que c'est plus sûr de rester dans ce qu'on sait, ça marche, c'est beau, ça a de l'allure, mais c'est peut-être pas spécialement unique, mais les joueurs vont aimer.
Mais ça fait gagner du temps et donc forcément de l'argent aussi, puisque de base, on peut commencer un développement assez rapidement.
Exactement. Les sociétés qui ont des moteurs maison, elles sont assez peu nombreuses parce qu'ils savent que le temps de développement qui est consacré au moteur est à peu près l'équivalent de ce qui est consacré à la production du jeu. Et si...
voire beaucoup plus quand tu vois le nouveau jeu de Ueda,
The Last Guardian.
The Last Guardian.
6 ans de développement.
6 ans de développement du moteur. Quoi.
Et le jeu qui commence maintenant.
C'est compréhensible parce que si aujourd'hui on disait ok, on commence un jeu avec une nouvelle technologie, c'est pas comme toutes les autres productions, genre dans les 2 ou 3 ans, c'est plutôt 6 ans qu'il faut compter. Parce
Le retard du nouveau driver, c'est ça aussi.
Il y a exactement toute la création de la technologie. Quand Ubisoft a créé Assassin's Creed avec leur technologie maison qui s'appelle Anvil. Jade, c'était le moteur de Prince of Persia, de BGE et de King Kong aussi.
Oui, c'est vrai.
Quand ils ont commencé la production de ce moteur, ils ont aussi dû supporter les coûts et les contraintes de la production du jeu propre. C'est-à-dire que tout le monde disait Assassin's Creed, ça prend des années à sortir, quand est-ce que ça sort, pourquoi ça a été repoussé. Mais c'était repoussé parce qu'il faut que la technologie soit assez solide pour pouvoir produire un jeu de qualité avec un nouveau moteur, alors que tout le monde à côté va sortir des jeux parce qu'ils ont ils utilisent un third party ou un moteur maison, mais qui a déjà été prouvé avec plusieurs jeux, quoi.
Et alors, comment vous avez procédé exactement pour Brink ?
Pour Brink, on utilise la technologie de id Software qui s'appelle id Tech. Celle-là s'appelle id Tech 4. Ouais. C'est le moteur qui a fait Doom 3. Donc, c'est en fait, on a repris la technologie de Doom 3 et elle a évolué dans une direction bien précise pour faire des jeux comme Quake Wars, qui en gros utilise une technologie qui s'appelle le Mega Texture, qui est une énorme texture de 32 000 pixels de côté, où on peint la totalité du terrain, et le moteur en fait stream les textures à chaque fois que le joueur va bouger.
C'est ce qui va être utilisé pour Rage aussi, si je dis pas de bêtises.
Ils utilisent
ce concept-là.
C'est exactement la même chose.
Sauf que c'est de la giga texture maintenant.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la taille de la page de texture est tellement énorme. En fait, en même temps, il y a énormément plus de résolution à l'écran. id Tech 5, donc qui est le moteur de Rage, gère beaucoup mieux la lumière. C'est vraiment beau quand on voit Rage. La gestion de la lumière est super réaliste, les textures sont super définies. Mais Mega Texture, c'est un truc qui a été créé par Splash Damage.
D'accord.
Et l'extension de la Mega Texture dans Brink, c'est ce qu'on appelle le texture streaming, qui est encore une fois une page de texture de 16 000 pixels de large, où toutes les textures qui sont utilisées dans le niveau sur chaque objet est stockée à des niveaux de résolution différents. Donc quand l'objet est loin, on affiche une résolution basse, et quand l'objet est près, on affiche une résolution plus
affinée.
Voilà.
Et toi, en tant qu'artiste, quelles sont, à ton avis, les forces et les faiblesses justement de cet outil ? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire, et qu'est-ce que tu aurais encore eu envie de faire en plus ?
Beaucoup de choses que j'aurais aimé faire avec ce moteur, mais bon, contrainte de production, le jeu devait être fait en 2 ans et demi, il a bien fallu qu'on travaille avec ce qui existait, donc il y a certaines améliorations qui ont été apportées au moteur, parce que de toute façon, il ne tournait que sur PC, donc il a fallu que pendant la production, on fasse le portage de la technologie sur PlayStation et sur Xbox. Donc on a découvert énormément de choses, on a découvert encore plus de contraintes liées au moteur, et donc il a fallu donc travailler vraiment dans ces contraintes. L'autre contrainte qui est apportée au jeu, c'est l'approche campagne solo et multijoueur étant exactement le même jeu. On a les contraintes d'un jeu multijoueur, c'est-à-dire qu'il faut que le niveau de latency soit très bas pour qu'on n'ait pas de lag pendant une partie en ligne. Et on a aussi les contraintes du mode solo qui est des scènes cinématiques, de la narration, des acteurs de qualité si possible, et tout ce qui habille une expérience single player. Donc c'est vrai que c'était le challenge était assez énorme quoi.
Et justement, c'est une question qui est collégiale, hein, qui est revenue assez souvent sur Gameblog. C'est, les gens disent, pourquoi vous avez délaissé les versions console par rapport à la version PC? Ils le disent en ces termes-là. Toi, tu nous dis que c'est plutôt parce que initialement c'était vraiment PC.
Exactement.
Et qu'il a fallu en cours aller sur
en
la console.
En cours, il a fallu adapter le moteur aux deux plateformes console. Donc effectivement, il va y avoir une différence de qualité entre la version PC et la version console, parce que la version console, on travaille avec des limitations définies, et la version PC a la limitation de la dernière génération de cartes vidéo ou de processeurs. Donc on n'a pas à se poser la question pour la version PC. Donc c'est effectivement un joueur qui va jouer à Brink sur un PC aura une meilleure rendu visuel parce que son équipement va être plus performant que ce qui est dans une console. Quoi.
Avec plus de temps, vous auriez pu faire mieux sur les versions console.
Avec plus de temps, on aurait sûrement encore plus retravaillé la technologie pour avoir la même qualité qu'on a sur PC. Quoi.
Mais au départ, vous n'aviez pas prévu de le sortir sur console du tout? C'est venu après, en fait?
C'était, pour Splash Damage, c'était la transition entre étant un développeur de jeux PC multiplayer ou un développeur de jeux tout court. Il y a le besoin de pouvoir vendre son jeu sur plusieurs plateformes.
Bien sûr.
Donc ça aussi, ça a été un énorme challenge.
Et on s'en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que dans les jeux traditionnels, les Call of Duty par exemple, les moteurs graphiques ne sont pas toujours les mêmes entre les expériences solo et les expériences multijoueurs. Alors que Brink, justement, les deux expériences
utilisent exactement la même technologie.
Comment vous avez géré ça? Parce que finalement, effectivement, on voit souvent que les modes, les campagnes solo ont un moteur ultra boosté, spécifique, et le multi a d'autres contraintes. Plusieurs joueurs, des cartes gigantesques, etc. Une liberté plus forte. Et puis toutes les contraintes aussi, tu en parlais tout à l'heure, du lag et donc le transfert de données.
Exactement, c'est... Les contraintes qui viennent du multijoueur, évidemment, ne sont pas présentes dans une campagne solo. Donc c'est un seul joueur à l'écran, des NPC qui sont donc gérés par l'intelligence artificielle, qui sont scriptés à 100%. Donc évidemment, en termes de performance ou de ce que doivent les paquets qui passent par le réseau, toutes ces contraintes-là n'existent pas du tout. Donc.
Mais est-ce que c'était pas risqué alors de prendre ce pari pour Brink?
C'était extrêmement risqué, mais on a voulu mettre en avant l'expérience du joueur qui, pour nous, n'a pas de raison d'être différente dans un mode solo ou dans un mode multiplayer. La plupart du temps, les réflexes, les codes qui ont été appris dans une partie solo, si tu essaies de les appliquer dans un jeu multijoueur, c'est pas possible. C'est d'autres codes, c'est d'autres règles. C'est des joueurs humains ou c'est des bots qui vont faire des choses complètement aléatoires alors que tout était scripté dans une partie solo. Par exemple, si on est dans cette pièce et qu'une équipe de SWAT essaie de rentrer, ils ne vont pas systématiquement passer par la même porte à chaque fois que la scène se passe. Ils vont sûrement faire exploser la fenêtre ou peut-être le plafond. Et
même une porte qui se trouve derrière ici.
Même une
mais
porte
qu'on ne
derrière.
Sait pas qu'on a un muret, mais peuvent l'utiliser.
C'est exactement ce qui se passe dans Brink. Chaque fois que le joueur joue, que ce soit en solo ou en multijoueur, il va se retrouver devant des situations complètement différentes parce que les bots, qui sont donc gérés par l'intelligence artificielle, réagissent aux mêmes règles que le joueur, c'est-à-dire qu'ils ont le même type d'objectif auquel ils sont assignés, ils utilisent les mêmes classes de personnages, les mêmes capacités, donc chaque fois que le joueur va jouer une partie de la campagne, ça va être complètement différent.
Là, le jeu est sorti depuis quelques jours, au moment où on enregistre ce podcast, c'est pas le cas, mais au moment où les gens l'entendent, c'est le cas. Il y a déjà pas mal de patchs qui sont prévus pour corriger différents aspects.
Il y a un premier patch qui est diffusé pour la version 360 où les gens avaient un problème d'affichage des textures. C'est dû au fait que ce qu'on appelle le disk caching n'est pas activé par défaut sur la console. Il y avait un problème de lag, donc le netcode a été amélioré aussi. Donc ça règle ces problèmes d'affichage de texture et de possibilité de gros lag pendant des parties multijoueurs.
Sur PS3, vous avez fait aussi un patch, je crois, qui fait revenir le PSN.
Et ça, c'est un patch que les millions de gens vous remercient.
Exactement, on va essayer de le sortir le plus rapidement possible.
C'est gentil.
Bah, par exemple, la version PS3 n'a pas le problème du disk caching parce que c'est quelque chose qui est par défaut.
D'accord.
Donc, voilà. Et il y a un patch aussi pour la version PC, donc qui est diffusée sur Steam. Et on a eu beaucoup de réactions de joueurs qui disaient, OK, les bots, j'arrive pas à les faire les objectifs principaux. On a corrigé ça.
Ils sont trop bêtes.
Ils sont trop bêtes, mais en gros, ils étaient bridés. Ouais. Donc là, on les débride et dans le prochain patch, les bots sont capables donc, de réaliser exactement les mêmes objectifs, y compris les objectifs principaux qui permettent aux joueurs de progresser pendant sa campagne.
Donc ce que tu nous dis, en fait, c'est que c'était une décision initiale.
Exactement.
De la rendre
débile, ouais. L'approche était, OK, le joueur doit être quand même le héros de la partie. Mais si le joueur a de la difficulté, il va se rendre compte que, OK, pourquoi est-ce que les bots qui sont là avec moi ne m'aident pas à accomplir ces objectifs, quoi. Ce qui, en gros, dans une partie solo campagne, il y a toujours un moment où l'intelligence artificielle va, en gros, pousser le joueur ou sur un objectif précis ou va l'aider donc, à accomplir cet objectif. Mais comme la façon dont on approche l'intelligence artificielle dans Brink, c'est que chaque bot a une vie. Il fait sa vie, il regarde les objectifs, il y a une priorité d'objectifs et pour l'instant, les priorités n'atteignaient pas les objectifs principaux du jeu. Donc on a corrigé ça et donc les bots vont être moins stupides, on va dire.
Alléluia, diront certains. J'en parlais avec le sourire tout à l'heure, même si c'est pas forcément très drôle, l'histoire du PlayStation Network. Sur un jeu comme Brink, justement, qui mise énormément sur le multijoueur, donc sur l'expérience online, comment vous, créateur de jeux vidéo, vous vivez cette séquence? Là, alors on enregistre, le PSN n'est toujours pas revenu.
Bah écoute, on vit mal, parce que Brink, c'est quand même un jeu qu'on a designé et qu'on a conceptualisé pour pousser l'expérience multijoueur et spécialement l'expérience en coopération en vue d'accomplir des objectifs bien précis. Donc on a un peu une espèce de philosophie, on dit le jeu n'est jamais aussi bon que s'il est joué avec d'autres humains, avec une coopération. Ça se rapproche un peu du sport où quand on a gagné une partie, on sait qu'on l'a fait parce qu'on avait une stratégie, parce qu'on a construit quelque chose en équipe et on sait qu'on a gagné parce qu'on avait construit ça en équipe. Donc effectivement, sans PSN, les joueurs PS3 vont être un petit peu démunis et vont pas pouvoir avoir avec l'expérience complète de ce qu'est Brink.
Ouais. Est-ce que justement aussi c'est pas un peu le symbole, on voit aujourd'hui de plus en plus de jeux et ça a l'air d'être très important qui intègrent du multijoueur, il faut forcément du multijoueur et puis on voit que finalement il y a quelques jeux qui trustent totalement l'expérience de jeu online et que les autres finalement je pense par exemple à du Bioshock 2, à du Dead Space 2, qui ont fait du multi parce qu'il fallait faire du multi
pour assurer les actionnaires,
exactement, mais au final personne n'y joue, alors est-ce que... Et puis, alors, on le voit aussi avec des crises comme la crise du PSN, ce genre de choses. C'est vrai que c'est finalement très sensible, le jeu en ligne. C'est très peu de studios et très peu de jeux qui, finalement, réussissent à en tirer les fruits. Comment on se situe en tant que développeur? Il faut absolument le faire. On essaie de y aller.
Moi, je dis, il ne faut pas absolument le faire si les mécaniques du jeu ne sont pas adaptées à un jeu multijoueur.
Mais ça, vous, en interne, vous pouvez avoir cet impact par rapport aux décideurs, aux éditeurs?
Oui, bah, l'éditeur, il a en gros approché Splash Damage parce qu'il connaissait son passé de studio de jeux multijoueurs sur PC, qui était déjà à l'époque d'un jeu comme Wolfenstein Enemy Territory, orienté objectif. Il y avait du team play, il y avait des classes, c'était l'avant TF2, donc tout le monde jouait déjà en classe et en vue d'accomplir les objectifs. Brink, c'est l'extension de ce type de jeu. Et si l'éditeur est venu nous voir, c'est parce qu'il savait qu'on était capable de délivrer ce genre d'expérience, quoi. Donc effectivement, il y a une décision stratégique qui est faite à la base, mais je ne pense pas qu'il faut absolument pousser une composante multijoueur juste pour avoir du multijoueur. De toute façon, les joueurs ne sont pas dupes, ils vont se rendre compte que okay, ça, c'est un élément rajouté. Ça n'a aucun intérêt, peut-être pour vendre, pour faire des microtransactions, peut-être.
Et ça, tu sens que c'est quelque chose qui est en train de se répandre dans l'industrie aussi. Il y a peut-être un retour en arrière. On a eu l'impression depuis quelques années que les expériences traditionnellement solo ne pouvaient sortir si elles n'étaient pas accompagnées d'une expérience aussi multi, même si elle n'était pas très bonne ou quoi que ce soit. Peut-être qu'aujourd'hui, revenir un petit peu en arrière, uniquement là où ça se justifie pleinement.
Je pense qu'il faudrait que ça soit comme ça. Mm-hmm. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Les gens veulent vendre du jeu.
Ça a aussi fait naître des jolis trucs. Et je pense au multi d'Assassin's Creed. À la base, ce n'est pas du tout fait pour avoir un multi. Et puis finalement, ils ont fait un truc super.
Assassin's Creed Brotherhood c'est intense en multiplayer.
Ouais, c'est
effectivement, personne ne pouvait penser, OK, comment est-ce qu'on va adapter le type de jeu Assassin's Creed à une expérience multijoueur.
Donc quand c'est bien fait, ça peut aussi servir.
Je pense que maintenant, il y a l'extension de ça, c'est le transit de données multiplateformes, c'est-à-dire quelle est l'extension d'un jeu sur des plateformes mobiles, sur du site internet, comment est-ce que différents types de jeux peuvent se parler, comment est-ce qu'un jeu peut générer des missions pour un jeu qui va peut-être être sur le live.
Et c'est quelque chose sur lequel ils bossent d'ailleurs beaucoup. Pour
exactement, il y a énormément de studios qui bossent dessus. C'est qu'est-ce que je peux faire sur mon iPhone pendant que je ne suis pas devant ma PlayStation pour faire augmenter mon personnage. Par exemple, on peut avoir peut-être un mini-jeu qui va permettre d'acquérir plus de points d'expérience.
Tout ça avait déjà été inventé par la Dreamcast.
Voilà.
Avec le VMU.
Effectivement.
Ah là là, c'est
Est-ce que tu penses, aujourd'hui, on arrive quand même, mine de rien, à une excellence technologique? Alors bien sûr, on peut encore faire mieux, mais c'est vrai qu'on commence à arriver à un niveau de stabilité au niveau des productions. Il y a 15 ans, il y avait vraiment des grosses daubes, des jeux où tu les voyais, tu faisais « oh là là, c'est catastrophique ». Aujourd'hui, finalement, les enjeux économiques sont tels, les compétences aussi des gens qui travaillent dans le jeu vidéo ont tellement augmenté, qu'on a un niveau, on voit à chaque année à l'E3, on fait… Bon, il y a des jeux qui sont plus ou moins intéressants, mais ils ont un niveau esthétique assez incroyable. Mais est-ce que tu penses que maintenant que la technologie arrive à maturité, l'artistique va
enfin
pouvoir
reprendre le
dessus, voilà, et qu'on va arriver avec des choses
qui ont du style.
C'est exactement ce que je disais au début, c'est ce qui s'est passé dans le cinéma d'animation synthèse est exactement en train de se passer dans le jeu. C'est-à-dire on atteint une maturité, on dit « OK, on a la maîtrise totale de la technologie. Maintenant, on va créer un contenu qui, visuellement ou en termes d'expérience de jeu, est unique. Mm-hmm. Il n'est plus question de suivre les tendances, mais de créer de nouveaux piliers, on va dire, du jeu vidéo. Donc, mais je pense que tout ça va être, encore une fois, mis par terre par la nouvelle génération de consoles.
Oui, c'est ça.
Parce qu'évidemment, tout le monde
va... Vous ne réclamez pas plus de puissance, en fait, aujourd'hui.
Non, on en réclame peut-être plus pour certaines choses qui, moi, je sais, sont manquantes dans un jeu comme Brink.
Comme quoi?
Comme par exemple la gestion de la lumière.
Ouais.
Dire, elle est là, elle est basique, mais elle est régie par des règles tellement strictes que, effectivement, j'avais pas la liberté totale de faire ce que je voulais avec la lumière normale.
Tu es obligé de faire des astuces, etc.
Exactement. Il y a certaines conditions d'éclairage qu'il faut respecter parce qu'on sait qu'elles vont pas nécessairement fonctionner avec d'autres. Ce qui fait que je me serais bien passé ce genre de contraintes. Tout ce qui empêche la liberté d'expression d'un artiste, t'as envie de t'en débarrasser. Mais je pense que la prochaine génération console, ça va être OK, voilà les nouvelles specs. On va tous faire encore une fois du photoréalisme encore plus photoréaliste. Et il va falloir encore attendre, peut-être pas des générations, mais quelques itérations de jeu pour retrouver du style, même si les limitations techniques commencent à s'effacer progressivement.
C'est super intéressant comme thème, justement, ça, la différence entre le style et l'aspect réaliste. Et ça me fait penser à l'apparition du cel shading, dont tout le monde a tendance à croire qu'en fait c'est un peu du rabais ou c'est facile à faire, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est assez compliqué de faire un beau cel shading, etc., en termes de rendu. Et je me dis, est-ce que l'arrivée de nouvelles consoles, même si je suis persuadé que tu as raison et que ce sera, on va faire du réaliste, encore plus réaliste, ça ne sera pas l'occasion de découvrir des styles qu'on ne peut pas faire encore aujourd'hui.
Je pense.
Des nouveaux rendus, des trucs vraiment frais.
Tu parles du cel shading, maintenant dans les jeux, il est pas parfait. Il y a d'énormes limitations. Je pense sûrement que la nouvelle génération de consoles va un petit peu gommer ces limitations. Donc effectivement, moi j'aimerais par exemple jouer à un jeu où tout est fait en ce qu'on appelle le crosshatch, c'est-à-dire le
crayonné.
Le crayonné, où c'est constamment en mouvement à l'écran, c'est que tous les silhouettes, le rendu des textures et à cette espèce d'aspect crayonné, ce serait fantastique. Mais un jeu qui n'utilise que deux couleurs, un truc complètement monochrome, c'est vraiment, vraiment bien.
Ça aujourd'hui, c'est technologiquement pas possible.
Technologiquement, c'est possible, mais y a encore des limitations qui t'empêchent de... Ok, c'est un vrai crayonné, parce que crayonné, il y a de la subtilité. Donc effectivement, les contacts techniques, c'est...
Est-ce que c'est pas plus un boulot de programmeur, ça, finalement, de créer un moteur qui visuellement puisse cracher quelque chose d'aussi...
Oui, c'en est un, parce qu'évidemment, ce genre de procédé, c'est pas manuel, c'est procédural.
Oui.
Donc c'est le moteur qui s'en charge.
C'est mon mot préféré.
Procédural.
Ah, c'était le mot utilisé, le plus utilisé en 2010 dans les podcasts de Gameblog.
Donc voilà, c'est effectivement...
Juste quand même, pour ceux qui ne sauraient pas encore, parce qu'il doit en avoir, procédural, c'est quoi?
Bah, c'est des algorithmes.
C'est un algorithme qui génère un aspect visuel qui est, on va dire, un peu automatisé.
Qui dépend de la situation.
Et qui surtout dépend de comment est-ce que le programmeur a, en gros, écrit le code pour que le visuel apparaisse comme ça. C'est, le cel-shading s'en est un. Viva Pinata,
oui.
Pareil, un rendu très très précis avec cette espèce de
carton,
d'effet filtre Photoshop un peu crayonné, carton. Évidemment, tout ça c'est procédural, mais il y a une grosse, on va dire, supervision artistique pour arriver à ce genre de résultat, quoi.
Et on parlait des styles là, toi t'as été marqué par quoi ces dernières années en production de jeux?
Grosse claque pour moi, c'était Mirror's Edge. Parce que j'aime le côté minimaliste, j'aime l'approche, ok, on ne garde que les informations de normal map, pas de texture à l'écran, à part le codage des différentes routes pour le déplacement. La gestion de la lumière est absolument sublime.
Sublime
dans ce jeu.
Ce qui est génial, c'est que ça collait vraiment à l'univers dystopique du jeu.
Ouais, complètement aseptisé.
Très clean.
Et j'ai eu la chance que le directeur artistique me fasse une présentation donc, de sa DA avant que le jeu commence. Et toutes ces références, évidemment, c'était des immeubles blancs, Tokyo, avec d'énormes affiches super, couleur criarde par-dessus, le métro, pareil. Vraiment, vraiment impressionné par Mirror's Edge. Et surtout, encore plus impressionné que quelqu'un prenne le risque de faire ce genre de truc.
Mais c'est ces risques aussi qui font que le jeu vidéo est vivant aussi. Qui lui donne. Alors Mirror's Edge, effectivement, malheureusement, n'a pas connu un succès incroyable.
C'est ça qui est dommage, c'est qu'après le jeu derrière ne suivait pas.
Et qu'en plus c'est édité par Electronic Arts, c'est qu'en général ils aiment pas faire les mêmes erreurs plusieurs fois.
Mais justement, il devrait peut-être revenir. Voilà, ils en parlent quand même régulièrement. Je pense qu'ils cherchent la bonne formule parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose.
Mais oui, ça a marqué et c'est ce qui fait qu'on en reparlera encore dans des années de Mirror's Edge, ce qui sera peut-être pas le cas du shooter lambda à côté, même s'il a une très bonne direction artistique.
Medal of Honor, le retour de Medal of Honor, on va pas en parler très longtemps. Mirror's Edge, on continue à en parler. C'est vrai qu'il y a Medal of Honor a apporté plus d'argent, mais peut-être que Mirror's Edge 2, un peu reformulé, qui fera peut-être moins peur aux gens.
Je sais pas pourquoi. En même temps, le système économique n'est pas fait de la même façon, mais ça peut être comparé au cinéma indépendant. Okay, on prend plus de risques, on fait des choses complètement uniques.
Et le problème, c'est que ça coûte toujours cher.
Exactement.
Quand même, de faire
une production de jeu, ça coûte cher. Donc, on attend un résultat financier à la fin. Quoi. C'est pas juste un geste artistique juste pour le geste. Il faut que ça vende.
C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de jeux indépendants prendre énormément plus de risques, en tous les cas visuels, revenir à des éléments 2D par exemple, ou
Limbo,
Limbo en noir et blanc, ou même à Outland plus récemment, à une identité visuelle forte, et puis prend surtout, évite de s'encombrer forcément des contraintes d'un jeu full 3D,
des plus petites équipes,
et revient à des choses
moins
importantes. Qui utilisent plus d'une force d'évocation, qui reviennent à de l'imaginaire aussi. Où tout n'est pas forcément ultra bien défini pour laisser un peu de place aux joueurs pour qu'ils digèrent cet aspect-là.
Je pense que pour les petits studios où le PSN et Xbox Live, c'est une super bonne plateforme justement pour expérimenter ce genre de trucs. On sait que les coûts de production sont limités. Pareil, on peut limiter la casse avec un jeu PSN. Quoi. On sait que l'envergure n'est pas aussi grande qu'un jeu qui va être vendu en magasin. L'attente des joueurs est un petit peu réduite par rapport à un AAA qui va devoir être vendu, je sais pas, c'est combien, 60 euros ou...
C'est ça,
70 euros
même
donc,
en France.
Exactement.
Hein, la France est très bien lotie à ce niveau-là.
C'est moins cher à Londres.
Oui. Mais justement, tu penses pas qu'il y a pas mal de gens qui travaillent, qui gravitent dans cette industrie, peut-être des directeurs artistiques ou ce genre de choses, qui vont avoir envie peut-être de s'exprimer plus librement, sans les contraintes lourdes, économiques qu'engendre un jeu AAA, mais qui peut-être finalement assèche aussi un petit peu la créativité.
Encore une fois, petit parallèle avec le cinéma, on a des blockbusters et des films qui sortent un petit peu l'ordinaire, qui vont peut-être pas faire autant d'entrées, mais il faut que l'éditeur, comme le studio qui crée le jeu, soit prêt à prendre le risque justement de dire ok, On a moins d'ambition en termes de vente, mais on a de l'ambition en termes de visuel, de mécanique de jeu aussi.
Il faut juste qu'il soit rentable, en fait. Le principal,
exactement.
C'est
qu'il faut au minimum que les ventes couvrent les frais de production.
Ça te plairait de travailler sur un jeu encore plus débridé que Brink, qui serait édité sur le Xbox Live ou le PSN?
Ah, oui,
et te lâcher
c'est,
complètement.
C'est exactement l'endroit où tu peux te lâcher le plus, quoi. Donc, c'est ce qui... Pour des artistes, c'est ce qui est le mieux, quoi. C'est le moins de contraintes, que ce soit économique ou technique, et puis le plus de liberté, quoi.
Et justement, Julo, te demandais tout à l'heure tes influences, les jeux qui t'avaient marqué, mais là, plus du côté du jeu vidéo, du côté général, un roman, une peinture...
Côté général...
Film.
Moi, je suis assez attiré par la peinture... peinture hyper réaliste. C'est un mouvement qui a commencé dans les années 70, qui continue, qui est très actif, qui part d'éléments complètement anodins. Ça peut être un paysage, ça peut être des portraits, mais qui fausse la perception de la réalité en changeant, par exemple, la taille. Donc, il y a cet artiste australien qui s'appelle Ron Moores, qui fait des sculptures d'humains, mais à taille qui ne sont pas la taille réelle. Donc, il y a des géants ou des... Il y a une qui est très connue, c'est deux petites mémés qui se parlent, mais qui sont petites comme ça.
Mais les proportions sont normales.
Les proportions sont normales.
Et c'est très, très réaliste.
La perception de la réalité est complètement faussée à cause du changement de l'échelle, en fait. Et pareil, il a fait une femme allongée dans un lit, mais qui doit faire peut-être, je sais pas, 10 mètres de long.
Un petit bébé aussi, avec une tête puis des yeux un peu exorbités.
C'est ça, le mouvement hyper réaliste, c'est super, c'est beaucoup d'inspiration.
Tu nous redonnes son nom ?
Ron Moores,
ok.
Et ça, c'en est un. Moi, j'étais beaucoup inspiré par tout ce qui est manga.
Lesquels ?
Bah, je suis plutôt dans le classique Akira, tout ce qui est fait par les studios IG, un peu de Ghibli aussi, parce que c'est tellement visionnaire comme type de direction artistique et d'univers qui sont abordés. C'est absolument hallucinant à chaque fois qu'il y a un Ghibli qui sort. Hein. J'aime les trucs un peu réalistes comme Ghost in the Shell ou Blood, Last Vampire. Il y a énormément d'attention portée au mouvement de la caméra, à la perception de l'environnement.
Moi, ce qui me fascine dans les Ghibli, c'est l'attention aux détails, en fait. Tous les détails qui peuvent apparaître, et à chaque fois que je regarde, mais surtout les plus vieux, je dirais, parce que les récents, je les trouve tous super. Hein. J'ai été voir Arrietty il y a pas longtemps, je trouve ça très bien, mais je trouve qu'ils n'ont pas la force qu'ils avaient avant, quand c'était Miyazaki qui les faisait tous. Et ça passe justement par tous ces petits détails. Moi, j'aime bien voir ça aussi dans les jeux vidéo, c'est-à-dire des trucs que tu vois pas forcément, mais quand tu les vois, tu te dis ah putain, ils ont pensé à ça, ils ont fait ça, etc. Et ça te donne vraiment vie.
Et corps et substance.
Ça donne de la substance.
Il y a quelque chose qu'on a un peu fait dans Brink. En même temps, tu dis pourquoi faire ça dans un shooter multiplayer où tout le monde va vouloir être dans le jeu immédiatement et puis juste faire du frag. Pour supporter un petit peu le côté narration, il y a énormément de choses qui sont dissimulées dans le décor. Il y a des flyers par terre qui vont raconter un petit peu l'histoire de l'endroit. Comme on a une très grande diversité de nationalités dans l'équipe. Il y a 14 nationalités différentes chez Splash Damage. J'ai demandé à ces gens de m'écrire des slogans révolutionnaires dans toutes leurs langues. Et elles sont tapissées donc sur les murs. Et donc ça rentre dans le contexte du jeu. Ça montre que l'endroit est un endroit qui est multiethnique. Ça apporte un petit peu plus de support à en gros ce qu'on appelle le overarching story. Il y a ça, il y a les tatouages aussi. On a essayé d'aborder le maximum de styles de tatouages tout en respectant l'origine. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on arrivait dans le sacré. Par exemple, on avait des tatouages maori au départ, mais le tatouage maori ne peut pas être porté par quelqu'un qui n'est pas maori. Donc on a essayé de ne pas froisser les gens. On a utilisé la version un petit peu occidentalisée du tatouage maori pour, en gros... pas offensé, quoi, mais on essaie de rester le plus authentique possible. Donc y a plein de petits aimants comme ça qui sont diffusés dans le niveau. Il y a des endroits, il y a des post-it avec des petits messages personnels qui s'adressent à des gens qui ont travaillé sur le jeu ou des trucs comme ça.
Mais c'est ça qui fait aussi justement que ça, y a une petite âme.
Exactement.
Raon, je crois que pour conclure, tu as quelques questions.
Ouais, j'en ai toujours un peu une tonne. Mais il y a un truc, on parlait donc de direction artistique dès le départ, on a un petit peu parlé de Brink, etc. Jusqu'à présent, on est toujours resté sur des éléments qui sont essentiellement basés sur l'image et le visuel. Moi, j'aurais bien voulu savoir si en tant que directeur artistique, on a, et jusqu'à où, une influence sur la musique, le gameplay et tous ces autres pierres angulaires d'un jeu. Et comment tous ces éléments-là peuvent participer et être tissés dans une direction artistique plus traditionnelle et plus visuelle.
La direction artistique, effectivement, bon, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un habillage. D'accord, un habillage de mécaniques de jeu qui sont existantes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une conversation constante entre les game designers, le directeur créatif et moi ou les gens qui ont créé les personnages. Ça a été toujours une discussion constante. C'était une discussion constante sur... ok, on a des classes de personnages, mais on a énormément de customisation dans le jeu. Ces deux éléments-là sont en conflit constamment, parce que comment tu veux définir une classe si tu fais en sorte que le joueur peut changer 100 fois d'équipement ou de t-shirt Donc la distinction de la classe.
Oui, pour qu'on reconnaisse que c'est telle classe et pas telle autre alors qu'il a tout changé.
La discussion de la classe, on a dû donc le déplacer à un autre endroit du jeu qui peut être dans le HUD. Donc dans l'interface, on a essayé aussi de focaliser sur comment est-ce qu'on différencie les deux factions du jeu, résistance et sécurité. L'une n'utilise que des tons froids, l'autre c'est plus un patchwork de couleurs mais qui utilise des tonalités un peu plus chaudes. Il y a énormément donc de discussions. Il y en a aussi une avec le directeur audio qui pendant longtemps a été laissé un petit peu pour compte dans le jeu vidéo. On sait jamais vraiment. Il y a pas vraiment il y a une critique de l'audio dans les jeux, mais il y a pas vraiment une critique profonde de comment est-ce que les sons sont apportés.
C'est assez rare plus en fait qu'il y ait du son dans les core team au tout départ en fait.
Exactement. Chez Splash Damage, on a donc un directeur audio, on a un audio designer qui a travaillé avec des sociétés externes pour tout ce qui était enregistrement des dialogues, pour la musique. Mais lui, c'est lui qui a pris en charge la création de tous les sons qui sont dans le jeu. Les sons des armes, par exemple. Les armes sont différentes en termes de son, qu'on soit du côté résistance, du côté sécurité. D'accord. Les armes sécurité sont entretenues, donc il n'y a pas d'objet qui pas de cliquetis, c'est très très slick. Le côté résistant, donc c'est pas entretenu.
C'est cradingue,
ça marche pas vraiment. Il y a des bruits de frottement. Il y a une différence de son qu'on tire au jugé ou qu'on tire en visée. C'est-à-dire que le rapprochement de l'arme par rapport au joueur et à l'écran fait qu'on va entendre les mécanismes de ressort ou le mécanisme de rechargement plus quand on a l'arme à côté de la joue que quand on l'a au niveau de la hanche. Quoi. Donc, c'est des petits détails.
Vous êtes allé assez loin, mais c'est
important de se dire que le visuel, c'est important, mais toute l'expérience sonore, le son fait à peu près 50% de l'expérience globale.
Nous sommes tellement d'accord.
Et alors, visuellement aussi, est-ce que tu as eu aussi ton mot à dire? Tu disais que tu étais fan de Mirror's Edge sur tout l'aspect body awareness, parce que ça fait partie du style aussi.
C'est vrai.
Donc la présence du corps à l'écran.
Voilà, exactement. C'est ça.
La première comparaison qui a été faite avec Mirror's Edge, c'est... vous faites du free running aussi. À quoi ça sert? C'est vraiment pour imiter Mirror's Edge, mais on a toujours dit, on fait ce qu'on appelle du free running. C'est pas vraiment du free running parce qu'il n'y a aucun côté de stylisation dans le mouvement. On aide juste le joueur à se déplacer dans le niveau plus facilement pour qu'il se concentre sur le shooting et l'accomplissement des objectifs. Donc on a eu toujours cette comparaison. Le body awareness, ça a été aussi un aspect super important. C'est dire, quand est-ce que les mains peuvent apparaître est-ce que les mains doivent apparaître devant le joueur? Est-ce que les pieds doivent apparaître devant le joueur? Et il y a un problème avec le body awareness, c'est qu'il y a un décalage entre l'action que le joueur voit et l'action qu'il pense faire. Ce qui fait qu'il y a un petit effet négatif qui fait qu'il y a une espèce de déconnexion avec le mouvement. Il y a certaines personnes qui souffrent de nausées parce qu'ils ils ont ce décalage entre la commande qu'ils ont fait en pressant un bouton et ce qui se passe à l'écran. Quoi.
Donc, c'est pour ça que c'est encore si peu répandu alors.
Je pense, ouais. Ouais. C'est vrai que celui de Mirror's Edge, j'étais quand même assez...
C'était génial. Moi, j'ai adoré ça parce que justement, j'étais vraiment à fond dedans.
C'est un des premiers trucs que je fais, moi, dans un nouveau FPS, quel qu'il soit, je regarde vers le bas, je vois si je regarde mes
pieds.
C'est la première chose que je fais.
Sinon, je l'ai vu.
Et je trouve
qu'on
l'évite, quoi. Y compris dans Deus Ex, tu vois, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus, quoi. Vraiment.
Il y en a pratiquement pas.
Il y en a quasiment pas.
C'est extrêmement dur à gérer et puis à régler, en fait. Donc, body awareness, c'était... effectivement, on a cette comparaison automatique avec Mirror's Edge, parce que c'était les premiers à l'aborder, quoi. Donc,
aussi fort, en tout cas.
Ouais, exactement. Bon, mettre un focus aussi fort dessus, en fait. Nous, on l'approche comme... on aide le joueur qui n'est pas nécessairement habitué à jouer à des first-person shooters à se déplacer pour qu'il puisse mettre toute sa concentration sur le shooting. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas une automatisation. Tout ce qui peut être fait avec le smart peut être fait aussi de façon manuelle, c'est-à-dire en utilisant sprint plus saut plus s'accroupir, un sprint plus s'accroupir, ça devient
glissade.
Exactement.
En tout cas, Olivier, c'est passionnant. On aimerait pouvoir prolonger cette discussion avec toi, mais visiblement, tu as un agenda très chargé,
très chargé.
Et tu es très demandé. On va te laisser quand même le mot de conclusion, si tu avais quelque chose sur lequel tu voulais mettre peut-être le focus ou...
Écoute, j'attends que le PSN revienne, ouais. Parce que j'aime bien ma PlayStation, j'aime bien jouer en ligne, alors... S'il vous plaît, rendez-nous le PSN.
Ouais, ce serait bien, messieurs de Sony, de clore ce triste chapitre qui embête tout le monde, à commencer par Sony, forcément.
Exactement.
Mais en tout cas, Olivier Léonardi, merci beaucoup de ta venue dans ces podcasts de Gameblog. C'est véritablement passionnant. On aura l'occasion de suivre la vie de Brink et puis la suite de Splash Damage, parce qu'on imagine qu'il y aura d'autres choses, d'autres projets de ta part.
Vous avez sûrement remarqué que dans le menu de Brink, il y a une rubrique qui s'appelle contenu additionnel. Voilà. J'ai rien à dire là-dessus, mais ça dit quand même contenu additionnel.
Très bien, ça n'a pas été créé pour rien. Allez, en tout cas, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast à quelques semaines maintenant, à quelques encablures de l'E3 2011 qui s'annonce tout simplement exceptionnel, absolument dense, riche, varié, vivant en tout cas. Merci beaucoup Olivier.
Merci.
Merci pour vos questions aussi, les gameblogueurs. Vous avez été très nombreux à participer. On rééditera ce genre de podcast événement avec des intervenants directement, des créateurs de jeux vidéo. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien.
Ciao.
Salut.